Bonjour, bienvenue au Cercle de lecture de Confluence. Ce mois-ci, nous avons lu un roman de Georges Amado qui s'intitule « Donna Flor et ses deux maris ». Alors, quelques mots sur Georges Amado. C'est un des écrivains brésiliens les plus importants. Il a une œuvre derrière, enfin, il est mort maintenant, mais il a une œuvre derrière lui vraiment abondante. Il est né en 1912, il est mort en 2001. Il a passé une très grande partie de, enfin, la première grande partie de sa vie à Bahia ou dans la région de Bahia. Puis, il a connu deux exils. En Amérique du Sud, et puis un autre en Europe, à Paris et dans l'ex-Tchécoslovaquie. Il est ensuite revenu au Brésil et il a donc. Il s'est totalement consacré à son œuvre littéraire, ayant abandonné ce qui avait été très important dans une partie de sa vie, c'est-à-dire la politique. Puisqu'il avait fait partie du Parti communiste, et c'est à cause de cela qu'il avait été en exil. Alors, pour parler de ce roman, nous sommes en comité réduit aujourd'hui.
Jeannette, bonjour.
Et moi, Jean. Ce roman est un gros roman, et il nous a changé de la lecture que nous avions faite précédemment, Le fusil de chasse, qui était un très court roman japonais. Et là, on passe donc d'une extrême à l'autre. Mais ça, ça fait partie des plaisirs de la lecture. On peut tantôt lire un livre très épuré, où chaque mot vraiment a une importance très grande, à un livre foisonnant, baroque, plein de péripéties et plein de personnages, mais qui est tout aussi passionnant, je pense.
Et alors,
je ne sais pas si c'est ce que tu en penses, Jeannette.
Oui. Moi, j'ai beaucoup aimé ce livre, avec une petite réticence au départ à m'y plonger en me disant 760 pages, Seigneur. Et en fait, on les avale, les 760 pages. Mais, la réaction des membres du cercle de lecture a été un petit peu celle-là. C'est-à-dire, beaucoup de plaisir de lecture, on s'amuse. Et puis, en même temps, quelques-uns disaient, bon, il y aurait eu 200 pages de moins, ça n'aurait pas fait de mal.
Alors, moi, je ne suis pas de cet avis.
Oui, moi non plus.
Bon, quand on a un gros roman, eh bien, il faut prendre le temps de le lire. Et ce livre, la lecture de ce livre, donne finalement beaucoup de plaisir. Enfin, moi, j'ai éprouvé beaucoup de plaisir, à lire ce livre.
Oui,
et la longueur, l'importance, donc, du volume ne m'a pas gêné.
Oui, moi non plus, j'ai savouré. L'autre chose qui a été intéressante dans ce qui a été dit, outre, donc, je dis ces petites réticences sur la longueur et puis le plaisir quand même éprouvé par les lecteurs, c'est que un des membres du cercle qui a des enfants qui vivent au Brésil et qui a eu elle-même l'occasion d'y aller plusieurs fois, dit que ce livre, qui n'est pas daté, enfin l'histoire n'est pas datée, on en déduit à cause du nom des chanteurs qui sont donnés, à cause d'un certain nombre de petits renseignements, les voitures, etc., etc., que ça doit se passer dans les années 40, à peu près dans ces années-là, 40-50, enfin, le milieu du siècle dernier. Et ce qu'elle disait, c'est que ce qui est dit du Brésil, le goût des diplômes, le goût du paraître, etc., etc., c'est toujours d'actualité. Elle nous a dit vraiment qu'on retrouve tout à fait aujourd'hui cette ambiance, les classes sociales, etc., que le livre décrit.
Alors, pour donner des précisions, la première traduction française date de 1972, et puis il a été plusieurs fois réédité. Alors, je rappelle le titre du livre, donc c'est « Donna Flor et ses deux maris ». Et dès le début, l'explication de ce titre étonnant est donnée. Voici comment Amado présente les choses. Ésotérique et émouvante histoire vécue par Donna Flor, professeur émérite d'art culinaire, et ses deux maris, Le premier surnommé Vadinho, le second, le docteur Teodoro Madureira, pharmacien de son état. Et donc, on a effectivement une sorte de plan du livre qui est annoncé dès le début. Et le livre est donc foisonnant, comme je l'ai dit, baroque, mais en même temps très maîtrisé. C'est-à-dire qu'on a 5 chapitres bien précis, avec un titre qui annonce la couleur d'une certaine manière. Donc, le premier chapitre s'intitule « De la mort de Vadinho, premier mari de Donna Flore, et de la veillée funèbre et de son enterrement ». Donc, c'est un peu étonnant aussi ce début, puisque dès les premières pages, le personnage masculin principal, on peut dire, meurt. Et meurt dans la fleur de l'âge, d'une certaine façon.
Meurt dans la fleur de l'âge, et puis aussi en plein carnaval.
En plein carnaval.
Peut-être parce qu'il avait un peu abusé
De la samba
et de la cachaça, oui. Et des demoiselles, quand
il
même,
ou des dames. Il est beaucoup question de la cachaça, cette boisson donc nationale du Brésil.
Oui, et donc ce livre-là dépeint quand même une petite bourgeoisie brésilienne là, dans les années 40-50, avec tendresse. Alors justement, compte tenu des opinions politiques de Jorge Amado, je m'attendais à une critique, et pas du tout. Et en fait, cette petite société, petite bourgeoise, ce sont des gens qui ont accédé à une certaine aisance, mais par le travail. Dans le groupe, il n'y a pas de rentier. Et on vit dans une ambiance assez amicale, on se reçoit, il y a des fêtes, il y a des concerts, enfin, etc. Et pour ceux qui ont plus de 20 ans, et qui peut-être le connaissent, on a envie de vous faire écouter un vieil air qui date de l'époque de Jacques Ellion et son orchestre, Monsieur le Consul à Curitiba, qui donne l'ambiance un peu douce de cette société baianaise.
Il est au Brésil une ville, un charmant petit coin tranquille, où la vie est douce et facile, et qu'on nomme Curitiba. D'un consul j'y fis connaissance, c'était pas le consul de France, mais pour un consul quelle chance d'habiter ce pays-là. Parmi les Touillas et les Magnolias, il a une maison avec véranda. Il a des jardins pleins de réséda, Monsieur le Consul à Curitiba. Quand il veut sortir, il trouve à deux pas le décor si beau qu'offre la pampa, les cactus géants et les catalpas, Monsieur le Consul à Curitiba. Sa jolie servante.
Donc nous reprenons notre conversation à deux sur le livre de Jorge Amado, Donna Flore et ses deux maris. Tu étais en train de dire, Jeannette, que dans ce livre, il n'y a pas directement, en tout cas, de critique sociale, si j'ai bien compris.
Mais, en tout cas pas acerbe, enfin, je m'attendais
mais
à...
à mon avis, la critique sociale, elle est quand même implicite, sous-entendue, et elle est très évidente, il me semble, dans un épisode qu'avait retenu un de nos lecteurs.
Tout à fait.
C'est-à-dire l'épisode de l'enfant de la prostituée.
Oui, alors...
Puisque, on va entrer un peu dans les détails. Le personnage principal, cette Donna Flore, n'a pas d'enfant. Et sait qu'elle n'en aura pas. Or, elle dispose quand même d'une fortune relative.
Une certaine aisance,
on en reparlera aussi, oui. Puisqu'elle dirige une école culinaire.
Qu'elle a fondée.
Et donc, elle a l'idée d'aller demander à une prostituée qui vient d'avoir un enfant, dont elle croit qu'il est de son mari, de lui donner cet enfant qu'elle adopterait.
Et d'ailleurs, donc, c'est davantage parce qu'elle le croit de son mari qu'elle ne supporte pas l'idée que cet enfant soit élevé par cette prostituée.
Et donc, il y a une scène là tout à fait intéressante où elle va accompagnée d'une amie qui est un peu sa porte-parole, puisqu'elle ne dit pratiquement rien, qui essaie de négocier donc l'échange, enfin le don de cet enfant.
Je peux vous lire, si vous voulez, un petit peu ce
oui, un petit parce que extrait c'est un beau passage qui, justement, il me semble, sous-entend la critique sociale.
Oui. Alors voilà ce que dit l'avocate de Doña Flor. Le terreiro est plein d'enfants, et aussi les rues voisines. Et mon compadre Joao Alves a des tas de petits-enfants. Je suis moi-même marraine de l'un d'eux. Et tout cela a faim. Vit dans la saleté, mendie, va jusqu'à voler. Mon amie n'est pas millionnaire, mais elle a de quoi vivre et peut donner aux pauvres petits du confort et une autre vie. Il ne souffrira pas de la faim et ne finira pas en prison. Il étudiera pour devenir prêtre et célébrer la messe. Et voilà la réponse qu'elle s'attire. Tu vois, monsieur Joao, comment on traite les pauvres ? Celle qui est là. Du bout des lèvres, elle désignait Doña Flor. Parce qu'elle n'est pas capable de mettre un enfant au monde et qu'elle veut accomplir un vœu, a cherché à savoir où il en était né un dernièrement et a su que Dionysia de Ossoxi, prostituée, en bonne santé et de grande pauvreté, venait d'en avoir un. Alors elle a dit à son amie « Allons jusque-là le chercher, elle va même nous remercier cette femme de mauvaise vie. » Car elle pense que les pauvres n'ont pas de sentiments. Elle pense que parce qu'on est fille de joie et qu'on mène cette vie atroce, on a perdu le droit d'élever ses enfants.
Donc là, il y a ce personnage-là qui est tout à fait intéressant et qui montre une grande dignité, finalement. Et Doña Flor comprend la leçon parce qu'elle elle a du cœur, elle sait réfléchir. Et c'est... Alors, cette Doña Flor, on va pouvoir en parler un peu plus longuement. Elle est donc mariée avec le fameux Vadinho, qui est un personnage, comment on pourrait dire, pas du tout recommandable.
Oui, alors je ne sais pas.
Il est joueur, il fréquente d'autres filles, il joue, alors donc, et il perd, il boit, il vient à la maison quand ça lui chante, bref. Mais elle en est follement amoureuse parce qu'il la comble du point de vue, disons, physique.
Oui. Hein? Et alors, en plus, il est beau, elle le redit à plusieurs reprises. Oui. Alors ça on tombe là sur un des aspects de ce Brésil multiracial. Il est blanc. On a vraiment l'impression... Enfin, il est blanc de peau.
Non seulement il est blanc de peau, mais il est blond.
Il est blond par-dessus le marché. Il est musclé, enfin, il est mince, etc. C'est un très beau parleur, mais je crois qu'il est lui aussi quand même amoureux de sa femme. Et il lui dit, et ça marche, que les autres, c'est pour la chichica. Alors, voilà. On sait pas ce que c'est la chichica, mais
enfin,
on le suppose. Et ma foi, elle le croit. Et sauf à un moment où elle craint qu'il ne la quitte pour une autre et où elle lui donne à choisir entre elle tout de suite ou l'autre. Et il la choisit. Enfin, elle finit quand même par rester 7 ans avec lui avant qu'il meure. Elle le supporte pendant 7 ans.
Donc elle le supporte. On peut dire qu'elle le supporte, mais en même temps, elle peut pas s'empêcher de l'aimer.
Elle peut pas s'empêcher de l'aimer. Et alors, il est quand même contradictoire. Parce qu'il y a un passage qui est assez intéressant. Un jour, il n'a plus un sou pour jouer. Il vient trouver sa femme, dont il sait qu'elle a des économies, pour lui demander de lui donner de l'argent. Et elle ne veut pas. Or, il sait qu'elle a des économies cachées. Il finit par les découvrir. Elle les lui refuse. Et ils finissent par presque se bagarrer. Et à un moment donné, il la jette contre le lit pour prendre l'argent. Et il lui fait mal. Et il sort comme un forcené, tenant dans sa main les billets qu'il vient de lui voler. Et en sortant, il tombe sur un ami qui lui annonce que sa mère vient de mourir. Chez cet ami, il allait souvent, il allait manger chez cette femme qui était lavandière et qui avait élevé ce garçon. Il lui dit, elle venait juste de me donner les dernières économies pour rembourser le prix du taxi que j'ai acheté. et du coup, il ne me reste plus un sou pour payer son enterrement. Et Valdigno, qui vient pourtant de voler cet argent à sa femme brutalement pour jouer, lui donne cet argent pour enterrer sa mère. Donc voilà, il est contradictoire.
Oui, il est contradictoire,
et attachant,
imprévisible.
Attachant.
Et d'une certaine façon attachant. Alors voilà comment il est présenté. Valdigno, sans horaire, couchant fréquemment dehors, sans doute dans le lit de vagabondes, d'anciens béguins réchauffés, voulant faire l'amour et le faisant à des heures tardives ou absurdes, n'importe quel jour, sans détermination, sans heure, ni calendrier. Il n'avait ni horaire, ni système, pas plus d'habitude établie ou convention tacite, coutume mutuelle, rien. C'était cette anarchie irraisonnée, Valdigno. Et cette anarchie irraisonnée, finalement, bien qu'elle se résiste, bien qu'elle essaie de se raisonner, c'est irrésistible pour
Donna Flore. C'est irrésistible pour elle. Et alors justement, la personne dont on vient de parler, qui vient de mourir et qui va être enterrée grâce à l'argent de Donna Flore, mais donné par Valdigno, elle aussi avait connu la même chose. Et quand Donna Flore était prête à se marier avec Valdigno, elle lui avait dit réfléchis, mon mari était comme ça, c'était un joueur, c'était un buveur, mais si tout était à recommencer, eh bien je recommencerai avec lui. Donc on a là l'homme fatal, c'est pas la femme fatale, c'est l'homme fatal que les femmes ont dans la peau, pour parler d'une vieille chanson.
Alors, on pourra reparler de ce personnage de Donna Flore, qui est un personnage qui, finalement, sans doute, a la préférence de l'auteur, hein, enfin, que l'auteur veut valoriser. Parce que c'est un personnage qui, finalement, construit sa vie et aime la vie. Et la preuve qu'elle aime la vie et tout ce qui peut faire plaisir dans la vie, c'est son école culinaire. Et ce qui est amusant dans le livre, c'est qu'à un certain moment, il y a des recettes. Il y a des recettes de cuisine.
Oui,
mais
on ne les essayerait pas quand même.
Qui sont, oui, et notamment, il y en a une, je vais lire un passage. C'est la recette qui s'intitule « Tortue en cocotte et autres plats peu connus ». Et à la fin de, alors je ne lis pas toute la recette, mais à la fin, il est dit ceci, avec beaucoup, bien sûr, d'humour. « Outre la tortue, je recommande le gibier, en général, et en particulier une soupe de lézard téillu, à la chair tendre et parfumée, avec de la coriandre et du romarin. Si vous le pouvez, présentez un pécari rôti entier, enveloppé de feuilles aromatiques. Ah, le roi des grands plats, le porc sauvage, dont la chair a une saveur de forêt vierge et de liberté. » Mais si votre invité, alors c'est là où ça devient amusant, désire un gibier encore plus rare et excellent, cherchez le nec plus ultra, le plus suprême, ce qu'il y a de meilleur, le plaisir des dieux. Pourquoi ne pas lui servir une jeune et jolie veuve, mijotée dans ses larmes de tristesse et de solitude, dans sa pudeur et son deuil, les appels de son désir brûlant, qui lui donne un goût de faute et de péché. Ah, je connais une veuve semblable, de piment et de miel, mijotée chaque nuit à petit feu, juste à point pour être servie. Donc là, on voit que la recette
dévie.
Mais avec quand même ce qui est l'idée principale du livre, c'est que finalement, c'est le désir qui commande et le plaisir avant tout. Alors, je voulais reprendre les titres des parties, des différentes parties. Il y en a 5 qui sont nettement annoncées. Donc, comme on l'a dit, l'histoire commence par la mort du mari, Valdigno, mais il y aura bien sûr beaucoup de retours en arrière pour raconter un peu ce qu'était cette vie. Alors, dans la deuxième partie, voilà l'intitulé « Des débuts du veuvage, tant du chagrin et du grand deuil, avec les souvenirs des espoirs et des erreurs, de l'amour et du mariage, de la vie conjugale de Valdigno et de Donna Flore, avec les bons et les mauvais jours, et la dure attente maintenant sans espérance, et la funeste présence de Donna Rosilda. » Alors, il faut dire que cette Donna Rosilda, c'est un personnage vraiment infernal, négatif. C'est la mère de Donna Flore, qui est toujours en contradiction avec elle, qui est vraiment l'antithèse de Donna Flore. On a l'impression que c'est une femme qui ne passe sa vie dans l'aigreur, dans la méchanceté,
Et qui déteste Valdigno, qu'elle a porté au Pinacle au début. Dona Flor et Valdigno se sont rencontrés dans un bal, chez un... comment dire, un bourgeois enfin, de la ville, où Valdigno s'était fait inviter en resquillant. Et étant donné qu'il était chez ce membre de l'élite baianaise, Dona Rosilda, qui cherchait à caser sa fille avec quelqu'un de riche, s'est dit que c'était le parti idéal. Donc au début, elle l'a apprécié. Et quand elle a su qui il était, bien sûr... Elle l'a rejeté absolument, mais Dona Flor était tombée amoureuse et Dona Flor a tenu tête à sa mère et l'a épousée quand même.
Voilà, alors c'est ce qui fait donc la qualité de cette personnalité de Dona Flor, c'est qu'elle est capable de résister à la toute-puissance là, de sa mère et qu'elle construit toute seule sa vie finalement.
Et elle se met à travailler. Et bon, alors on reviendra un petit peu sur le sexisme quand même qui est présent dans ce livre. Elle se met à travailler dans un créneau qui est pour les femmes naturel, c'est-à-dire elle crée cette école culinaire art et saveur dans laquelle des jeunes filles vont venir, même des femmes mariées vont venir et parallèlement d'ailleurs, elle fait traiteur un peu, elle prépare des plats et c'est comme ça qu'elle vit et qu'elle vit assez bien et qu'elle entretient d'ailleurs son mari. Mais peut-être qu'avant d'aller plus loin, pour se mettre encore mieux dans l'ambiance du Brésil, on peut écouter une samba endiablée d'un certain Cavaquinho, dont il est question d'ailleurs dans les musiciens, compositeurs dont Jorge Amado nous parle.
Que foi só pegar no cavaquinho pra nego bater. Mas se eu contar o que pode um cavaquinho, os homens não vai crer. Quando ele fere, fere, fina e dói que nem punhal. Quando ele invoca até parece um pega na geral. Quando ele fere, fere, firme e dói que nem punhal. Quando ele invoca até parece um pega na geral. É que foi só pegar no cavaquinho pra nego bater, mas se contar o que pode um cavaquinho, os homens não vai crer. Quando ele fere, fere firme, dói que nem punhal. Quando ele invoca até parece um pega na geral. Quando ele fere, fere firme, dói que nem punhal. Quando ele invoca até parece um pega na geral. Genésio, a mulher do vizinho, sustenta aquele vagabundo. Veneno é com meu cavaquinho, pois se eu tô com ele, encaro todo mundo. Se alguém pisar no meu carro, puxo o cavaquinho pra cantar de galo. E aqui foi só pegar no cavaquinho pra nego bater. Mas se eu contar o que faz um cavaquinho, os homens não vai crer. Quando ele fere, fere firme, dói que nem. Quando ele invoca até parece pega na geral. Quando ele fere, fere firme, dói que nem.
Donc après cette ère de samba, nous reprenons nos réflexions sur le livre de Jorge Amado, Dona Flor et ses deux maris. Et j'avais indiqué là, que les différentes parties étaient très nettement présentées. Et puisqu'on a parlé de musique, chaque fois, à la fin de la présentation de la partie, il y a une évocation musicale. Il faut dire que la musique joue un rôle important dans le livre, finalement. Il en est souvent question. Les gens chantent, les gens font de la musique. Et ça contribue d'ailleurs à ce rythme d'allégresse, finalement, qui court dans tout le roman. Donc la troisième partie s'intitule « De la période du demi-deuil, de l'intimité de la veuve dans sa pudeur et sa solitude de femme jeune et ardente, et comment elle arriva douce et honorée à son deuxième mariage, quand le poids du souvenir du défunt commençait à peser sur ses épaules. » Dona Flor est, comme son nom l'indique, elle est dans la fleur de l'âge, et il n'est pas concevable... sans doute pour elle, mais aussi pour son entourage, qu'elle ne se remarie pas. Et son entourage, les divers amis qui l'entourent, se mettent à la recherche d'un nouveau mari.
Avec une diseuse de bonne aventure qui prédit qu'il sera grand, qu'il sera bel homme, etc., etc. Et on cherche.
Et la prédiction donc va finalement se réaliser. Elle va rencontrer alors un personnage, on va en reparler, qui est l'opposé absolu du premier, du Valigno. Là, c'est un personnage au contraire d'une respectabilité absolue. Il s'appelle Teodoro Madureira et il est pharmacien. Et donc bien sous tout rapport, sérieux, bien de sa personne aussi, hein, tu l'as dit.
Oui, c'est un bel homme, méritant, voilà. Parce que finalement il est d'une famille qui n'était pas très fortunée, sa mère était veuve, et il a fait ses études faites, il a réussi à acheter quelque part dans une pharmacie, et avant de rencontrer Donna Flor, il vivait en célibataire chaste auprès de sa mère. Alors je dis chaste, pas
oui,
tout à fait.
Oui, je sais, un bémol quand même.
Je ne sais plus si c'était toutes les semaines ou tous les mois, mais enfin, il avait ses
habitudes.
C'était
très régulier.
Une régulière, on peut dire, chez qui, après avoir fait ses petites affaires, il consommait toujours une petite liqueur et avec qui il était quand même très respectueux.
Donc de ce point de vue-là, tout était aussi très précisément réglé.
Voilà. Mais il se trouve qu'il a vu Donna Flor qui est venue chercher des médicaments chez lui et qu'il est tombé amoureux de cette femme.
D'où le titre de la présentation de la quatrième partie de la vie de Donna Flor, ordonnée et paisible, sans sursaut ni chagrin, avec son second et bon mari, dans le monde de la pharmacologie et de la musique d'amateur, brillant dans les salons et le cœur des voisins lui rappelant son bonheur. Alors il faut dire que ce docteur Teodoro Madureira joue du basson et il en joue régulièrement. Et elle va donc le suivre pour ses petits concerts privés. Donc,
c'est assez intéressant là d'ailleurs parce qu'on parlait classe sociale et Teodoro forme un petit orchestre avec tout un tas d'amis et qui sont de classes sociales assez différentes. J'ai envie de vous lire ce passage parce que j'ai trouvé ça assez intéressant, vous allez voir. Ces messieurs importants se transformaient le samedi après-midi en enfants joyeux et sans souci, libres d'engagement et de mondanité, de clients et d'affaires, de l'argent à gagner avec hâte et appétit. Ils laissaient de côté les différences sociales, le négociant en gros fraternisant avec l'ingénieur de la municipalité aux maigres appointements, le chirurgien fameux avec le modeste pharmacien, le très digne juge ou le propriétaire des entrepôts du Nord, 8 entrepôts dans la ville, avec le commis du petit magasin. De même, les dames si nobles et distinguées ouvraient l'intimité de leur maison aux épouses des autres mélomanes sans mesurer leur fortune ou leur origine sociale, parce que ces concerts ont lieu dans les différentes maisons et surtout les répétitions ont lieu dans les différentes maisons. Et alors, le fameux ingénieur de la municipalité aux maigres appointements, il est marié avec une certaine Maricotta et lui, il n'a pas d'argent. Et sa femme, elle, le ressent. Voilà ce que dit cette fameuse Maricotta. Elle ne venait presque jamais à ses concerts, n'ayant ni robe ni conversation à la hauteur de ces grandes dames à la manque, comme elle l'expliquait au voisinage, à un coin de rue aux limites du quartier de la Lapigna et de celui de la Liberté. Il y a quand même donc des quartiers riches, des quartiers pauvres. Qu'est-ce que j'irai faire là ? On n'y parle que de fêtes, réceptions, déjeuners et dîners, de boostify à vous en faire mal au cœur. Quand je pense aux petits à la maison, sans pouvoir leur remplir le ventre convenablement, lorsqu'elles ne parlent pas nourriture et boisson, ce n'est que commérage effronté.
Oui, alors il me semble qu'on voit là ce qui fait l'intérêt de l'écriture d'Amado, c'est que ce ne sont pas des romans engagés, on pourrait dire, hein, mais la critique sociale, elle est diffuse, oui, comme tu dis. Et alors, il y a deux choses là dans ce que tu as lu. Il y a d'un côté le pouvoir fédérateur de la musique qui rassemble tout le monde, quelles que soient les classes sociales. Mais il y a aussi une ironie aussi par rapport à cette petite société un peu
où les uns peuvent
étriqués.
Recevoir chez oui. eux, offrir oui. des goûters somptueux, et évidemment l'ingénieur de la municipalité, que d'ailleurs les autres appellent le pauvre bougre, ne peut pas le faire.
Voilà, et Donna Flore, dans un premier temps, sans doute par amour pour son nouveau mari, va régulièrement assister à ses concerts, mais on sent qu'elle est vite lassée, qu'elle n'y trouve pas vraiment sa place, qu'elle se sent sans doute peut-être un peu décalée, déclassée.
On y joue non pas de la samba, mais de la grande musique.
Voilà, voilà. Et donc, on pourrait peut-être de nouveau écouter une autre musique typiquement brésilienne.
Typiquement brésilienne. Alors, on vous a choisi un air de Gilberto Gil. Vous vous souvenez que Gilberto Gil a été le ministre de la culture de Lula, assez récemment. Enfin, il est mort maintenant, Gilberto Gil. Et là, il est en train de chanter avec Gaetano Caetoso. Et il chante un air qui s'appelle « Uvim da Bahia ». Je suis venue à Bahia et je vous en ai cherché la traduction. Enfin, elle était donnée en espagnol, donc je vais vous en faire une retraduction en français un peu approximative. Mais ce qu'il y avait d'intéressant, c'est qu'il évoque Bahia, il évoque la Madre Yemanja, c'est une déesse, il évoque le Seigneur des Bonnes Filles, et ça nous permet d'accéder justement à ce côté un peu ésotérique, hétéroclite sur le plan religieux. Je suis en train de chercher le mot. Il y a toute une sorte de mélimélo, un syncrétisme, ouais. Oui, un mélimélo de religions venues d'Afrique, enfin venues d'un petit peu partout. Et alors, il nous dit que à Bahia, on ne meurt pas de faim. Parce qu'il y a justement la Madre Yemanja et le Seigneur de Bonnefine qui aident les Bayanais à vivre pour chanter et chanter la samba et mourir avec allégresse dans la fête de la rue, par une nuit de lune au coin de la mer.
Eu vim da Bahia cantar, vim da Bahia contar tanta coisa bonita que tem na Bahia, que é meu lugar. Tem meu chão, tem meu céu, tem meu mar. A Bahia que vive pra dizer como é que se faz pra viver, onde a gente não tem pra comer, mas de fome não morre, porque na Bahia tem mãe Iemanjá, de outro lado Senhor do Bom Fim, que ajuda o baiano a viver, pra samba, pra cantar, pra valer, pra morrer de alegria, na festa de rua, no samba de roda, na noite de lua, no canto do mar. Eu vim da Bahia, mas eu volto pra lá. Eu vim da Bahia, mas algum dia eu volto pra lá.
Eu vim da Bahia cantar, eu vim da Bahia contar tanta coisa bonita que tem na Bahia, que é meu lugar. Tem meu chão, tem meu céu, tem meu mar, a Bahia que vive pra dizer como é que se faz pra viver, onde a gente não tem pra comer, mas de fome não morre, porque na Bahia tem mãe Iemanjá do outro lado, Senhor do Bom Fim, que ajuda o baiano a viver, pra cantar, pra sambar, pra valer, pra morrer de alegria, na festa de rua, no samba de roda, na noite de lua, no canto do mar. Eu vim da Bahia, mas eu volto pra lá.
Reprenons donc notre conversation sur Donna Flore et ses deux maris, le livre de Georges Amado. Et Jeannette, tu voulais donner des précisions donc sur un aspect qui t'a intéressé.
Oui, parce que, on a dit que Valdigno et Teodoro étaient vraiment aux antipodes l'un de l'autre. Et Donna Flore, qui est quand même heureuse de trouver une sécurité, de la tendresse, enfin, des attentions, et puis surtout une certaine aisance matérielle, parce que Teodoro couvre toutes les dépenses de la maison et lui laisse ses propres revenus comme économie. Il ne voudrait surtout pas y toucher. Mais ce brave Teodoro, je pense, il est victime, si j'ose dire, d'une certaine conception un peu machiste des choses, qui doit être celle de Jorge Amado, sans doute. Les femmes, comment dire, si elles sont sérieuses, n'ont pas de désir, vraiment. Et alors, pendant leur première nuit de noces, Doña Flor, qui quand même, depuis un an et demi ou deux, se morfond dans son grand lit de fer, aimerait bien qu'il soit un peu plus chaleureux. Et en fait, il lui fait regarder les étoiles et lui montre les différentes constellations. Et Doña Flor, voilà ce que pense Doña Flor. Pourquoi cette crainte, mon chéri, cet effroi ? Pourquoi ne me prends-tu pas dans tes bras ? Ne m'embrasses-tu pas sur la bouche ? Ne m'emportes-tu pas vers le lit ? Ne vois-tu pas comme j'attends, impatiente ? Ne lis-tu pas la faim sur mon visage ? N'entends-tu pas mon cœur qui bat trop fort ? Ne devines-tu pas mon désir ? Doña Flor avait aussi des révélations d'étoiles dans son ciel nocturne, son astronomie secrète. Bon, et donc, assez vite, finalement, tout en gardant une grande fidélité à son mari, une grande admiration, beaucoup d'affection, elle va être un peu en manque. Et que va-t-elle imaginer ?
Oui, mais tu dis conception machiste d'Amado, je ne crois pas que ce soit la conception machiste d'Amado lui-même. Alors, je pense que, enfin, tel qu'il présente Doña Flor, il la présente de manière totalement positive, il me semble qu'il,
oui,
mais qu'il trouve que c'est bien que ce soit une femme qui désire, qui aime, qui soit sensuelle, qui aime...
J'ai eu l'impression, toujours en lisant le livre, que Doña Flor, c'était le fantasme masculin. C'est-à-dire qu'elle était, auquel d'ailleurs les trois quarts des femmes et des jeunes femmes, peut-être encore plus que celles de ma génération, essayent de se conformer. Elle est belle, elle est toujours très élégante, elle sait faire la cuisine, qui, comme disait Juliette Gréco, retient les petits maris qui se débinent. Elle sait danser, enfin bref, et elle est une femme passionnée au lit. Donc, je trouve, enfin, qu'elle correspond un peu à tous les fantasmes masculins.
Oui,
c'est pour ça que je dis ça.
Oui, mais machiste, je crois que c'est un peu fort quand même. Enfin, je sais pas. Bon.
En tout cas, alors, brésilien, peut-être. Brésilien.
Oui. Alors, ce qui se passe ensuite, c'est qu'on va basculer, mais on le sentait que petit à petit, l'irrationnel allait prendre le pas. On va basculer un peu dans le fantastique, dans l'irrationnel. Il se trouve que la vie que Doña Flor mène avec son second mari est tellement réglée, tellement sans imprévu, tellement sans fantaisie, que elle est insatisfaite.
Oui.
Et qu'elle se dit que si elle devait noter, si elle devait tenir un journal personnel, elle mettrait quelque chose comme « il ne se passe rien, rien à signaler ». Elle a un sentiment de vide un peu. Et alors, tout d'un coup, on bascule complètement dans la fantaisie, enfin dans l'irréel. Et le premier mari, le Vadinho mort, va lui apparaître.
Et par-dessus le marché, le jour de l'anniversaire de la première année de son mariage avec Théodore.
À la suite d'une petite fête qui avait été organisée chez eux. Je vous lis le passage. Restée seule, Doña Flor tourna le dos à tout cela. Les friandises, les bouteilles, le désordre, les échos des conversations sur le trottoir, le basson dans un coin, silencieux et grave. Elle se dirigea vers la chambre à coucher, ouvrit la porte et alluma la lumière. « Toi ? » dit-elle d'une voix chaude, mais sans surprise, comme si elle l'attendait. Sur le lit de fer, nu, comme Doña Flor l'avait vu en ce dimanche de carnaval, lorsque les hommes de la morgue avaient apporté le corps, Valdino était couché et, souriant, lui fit un signe de la main. Doña Flor lui sourit à son tour. « Qui pourrait résister au charme du bohème, à ce visage d'innocence et de cynisme, à ces yeux de convoitise? Pas même une sainte d'église, moins encore elle, Donna Flore, simple créature. « Ma jolie !» Cette voix chérie, paresseuse et lente. « Mais pourquoi es-tu venue aujourd'hui ?» demanda Donna Flore. « Mais parce que tu m'as appelée, et aujourd'hui tu m'as tellement appelée que je suis venue. » Comme si son appel avait été insistant et intense à tel point qu'il avait fondu les limites du possible et de l'impossible. « Et me voici, ma chérie, je suis venue tout de suite. » Et se levant à demi, il lui prit la main, l'attirant vers lui, l'embrassa sur la joue, car elle avait détourné sa bouche. « Pas sur la bouche, tu peux pas, tu es fou, et pourquoi pas ?» Bon, et à partir de ce moment-là, donc la présence de ce Valigno va se faire de plus en plus fréquente, mais il n'est visible
que Donna Flore.
Par Donna Flore. Et chaque fois, il lui apparaît donc, dans le plus simple appareil. Et ça donc entraîne des scènes évidemment cocasses, parce qu'elle, elle le voit, les autres ne le voient pas, et donc, notamment,
ne le voit
donc
pas.
Le second mari.
Et ce coquin de Valdigno n'aurait rien contre le fait de s'insérer dans le lit conjugal entre elle et Teodoro. Heureusement, Donna Flore, quand même, tient bon, malgré le côté enjôleur de Valdigno qui lui dit « Mais tu n'es pas infidèle, puisque je suis ton mari, moi aussi. » Alors, on ne va pas vous raconter comment Donna Flore se dépêtre avec toute cette affaire, mais en fait, c'est assez amusant.
Et donc là, on arrive à ce qui est sans doute la leçon, si on veut dire, du livre. C'est-à-dire que Donna Flore donc, va trouver un équilibre entre son second mari, donc tellement rangé, tellement rassurant, et le Valdigno, qui va la combler du point de vue physique, on peut dire.
Hein. On s'était dit d'ailleurs que cette espèce de dualité, que les deux maris représentaient finalement la dualité des aspirations de pratiquement tous les êtres humains, entre d'une part une vie mouvementée, passionnée, mais risquée et pleine d'aventures, et le besoin d'une vie plus rangée, plus sûre, plus sécurisée, plus financièrement confortable.
Alors, c'est pour ça que la cinquième partie s'intitule « De la terrible bataille entre l'esprit et la matière, avec d'étranges événements et de stupéfiantes circonstances ne pouvant survenir que dans la ville de Baïa, et le croira qui voudra. » Et puis, entre parenthèses, « Avec un cœur de tam-tam et d'agogo, et le dieu Hexa dans une chanson moqueuse. J'ai déjà fermé la porte, je l'ai déjà fait ouvrir. » Donc il y a là les clins d'œil du narrateur, hein, le croira qui voudra. Il raconte une histoire fantastique, mais en même temps, il adresse des clins d'œil au lecteur.
Voilà. Alors on ne peut pas vous dire comment ça se termine, parce qu'il faudra que vous lisiez le livre. Mais peut-être qu'on va arriver au terme de cette émission. À moins que Jean, tu as encore des choses à dire.
Alors, on a dit l'essentiel, mais on peut quand même, on comprend que ça ne peut pas se terminer mal. C'est-à-dire que, encore une fois, hein, cette Donna Flore, elle a trouvé un équilibre et elle se satisfait maintenant de cette dualité. Il y a le Teodoro pour la vie rangée et le Valdigno pour, on pourrait dire, le dérèglement des sens.
Voilà. Mais en même temps, elle ne lèse personne, ni Valdigno, ni Teodoro, qui lui est rangé sur le plan des sens. Enfin, il y a quelque chose qui nous a fait beaucoup rire dans le livre, c'est que chez lui, c'était le mercredi et le samedi, uniquement les rapports sexuels, avec un bis le samedi.
Oui, alors c'est raconté, bon, c'est la partie, humoristique, comique du livre. Parce que je trouve que le livre, finalement, encore une fois, est plein d'allégresse.
Le livre est drôle.
Enfin, plein d'amour de la vie.
Oui.
De la vie, dans toutes ses complications peut-être, mais de la vie.
Oui. Hein? Et avec, vraiment, c'est ça, c'est un style allègre. C'est un style bondissant, je ne sais pas comment. Voilà. Musical peut-être, je ne sais pas comment.
Et alors musical sans doute, parce oui. qu'il est question très très souvent de musique dans le livre. Et ce n'est pas le basson du... Le basson du second mari qui est le plus allègre, disons.
Oui. Et alors justement, comme il se trouve que j'avais rien lu de Jorge Amado jusqu'à ce livre-là, je me suis dit lisons un autre et j'ai lu Cacao. Et alors c'est vraiment complètement différent. C'est-à-dire qu'au contraire là, on a un style. Il fait parler un ouvrier qui va découvrir la lutte des classes. Et donc là, on a quelque chose de très politique et avec un style, justement, enfin, c'est celui de cet ouvrier qui parle, mais qui est loin d'être bondissant. Et bon, et Cacao, c'est intéressant pour d'autres raisons. Il y fait allusion au grand propriétaire de plantations de cacao qu'on appelle les colonels et qui utilise les services d'ouvriers qui réduisent quasiment en esclavage. Alors, je ne sais pas si on termine sur un concert de basson, parce que c'est l'instrument de Teodoro, quand même.
Oui, et ensuite, donc, on fera quelques annonces par rapport au cercle de lecture et à Confluence. Terminons avec ce solo de basson, qui n'est peut-être pas la musique la plus allègre qui correspondrait au ton du livre, mais c'est la musique donc, que joue le second mari de Donna Flore. Alors, le prochain livre qui sera donc lu par les membres du cercle de lecture, c'est...
Et tous ceux qui veulent bien venir s'adjoindre au cercle de lecture de Confluence.
Oui, qui est ouvert à tout le monde. C'est un livre d'Anne-Marie Gara qui s'intitule « La source ». Alors, pourquoi ce livre? C'est parce que Anne-Marie Gara sera la prochaine invitée de Lettres d'automne, c'est-à-dire le festival littéraire de Confluence qui se déroule chaque année, la deuxième quinzaine de novembre.
Alors, il y a quelques autres annonces. En ce moment, se déroule le festival de sculpture Bourdelle. Organisé par l'espace Bourdel, et il y a plusieurs lieux de Montauban, vous le savez, qui sont où se tiennent ces expositions, à l'ancien collège, au conseil du département, aux Augustins,
à la petite comédie aussi.
Aux Augustins et à la petite comédie justement, où se tient une exposition de sortes d'énormes masques qui ont vraiment beaucoup d'allure, faits par un homme de théâtre qui les a utilisés pour Carthage, un montage qu'il a fait, enfin une pièce qu'il a faite sur Carthage, et ils sont donc visibles à la petite comédie. Autrement, comme chaque année...
Est-ce que tu peux préciser la date de du prochain cercle de lecture?
Ah oui, alors le prochain cercle de lecture, c'est le lundi 9 septembre à 14h15 à la petite comédie.
Oui. Et je peux préciser que le livre donc d'Anne-Marie Gara, La Source, se trouve dans la collection Babel Actes Sud. c'est-à-dire les livres de poche d'Actes Sud. Donc, pas très cher.
Pas très cher. Alors, autrement, partir en livre, c'est la, chaque année, il y a cet épisode, une grande fête du livre pour la jeunesse, qui est organisée avec les libraires. Ça se tiendra du 15 au 19 juillet, et tout particulièrement le 17 juillet, Confluence anime toute une journée avec, réservée aux enfants. Il faut s'inscrire, c'est gratuit, et vous inscrivez-vous auprès de Confluence. Voilà les dernières infos que nous voulions vous donner. Nous vous souhaitons de bonnes vacances. Nous nous retrouverons maintenant à la rentrée. Au revoir. Voilà.
Au revoir, à bientôt.